BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en direct sur BFM Business. On va parler de transformation du secteur, on a plein de choses à dire en ce moment là-dessus, de l'échéance MiCA, du futur, du minage et d'Emmanuel Macron qui veut encore réglementer. C'est un tout petit peu agacé, Nathalie Janson, vous allez le voir. Les invités, donc Nathalie, économiste, professeure à la Neoma Business School, présidente de Génération Libre. Bonjour Nathalie Janson.
Bonjour Sandra.
Ravie de vous avoir sur le plateau. Face à vous, il y a Florent Gabriel, fondateur et CEO de Block.io, le minage. Bonjour Florent.
Bonjour Sandra.
Et Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale, chez nous comme tous les mercredis. Bonjour Grégory.
Salut Sandra.
Vous continuez à nous écrire, à nous poser toutes vos questions sur le sujet, sur le secteur. Vous savez, on y répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Le club, c'est parti. Ah, j'aime bien les petits coups de gueule de Nathalie Janson pour commencer contre notre président Emmanuel Macron qui appelle à nouveau à réglementer les crypto-actifs, Nathalie.
Oui, alors bon, c'est un peu facile. En tout cas, je vais laisser Grégory après rebondir. Mais voilà, moi, je vais dire, j'en ai marre d'entendre toujours le même discours en France avec « c'est pas bien, ça finance le terrorisme, c'est la fin du monde ». Voilà, et effectivement, c'est simplement pour remettre dans le contexte, le terrorisme n'a pas entendu les crypto-monnaies. En effet, le financement du terrorisme et du blanchiment d'argent reste quand même essentiellement fait en cash, en dollars. Aujourd'hui, je comprends bien qu'il y a une préoccupation sur les cryptos, mais c'est vrai qu'en France, c'est pas comme si ce discours-là nous était pas servi matin, midi et soir. Donc c'est pour ça que j'étais un peu irritée du fait qu'il ait souligné ce point, et d'autant plus que en effet, en même temps, je lisais un autre média qui racontait que Donald Trump était en train de proposer, enfin de mettre en action un autre executive order, comme il adore le faire, ou alors là il demandait carrément effectivement aux instances gouvernementales de bien vouloir s'activer pour savoir comment on va connecter les innovations technologiques et tout le domaine des cryptos à la finance traditionnelle et au système bancaire traditionnel. Donc là on a vraiment l'impression de faire un grand écart mais monstrueux. On se rappelle, on en avait parlé rapidement sur votre plateau, que déjà la Fed de Kansas avait demandé la possibilité pour la filiale de Kraken Payward d'avoir un accès à la Fed pour pouvoir faire des transactions directement. Alors pour que ce soit clair, bon, je suis sûre que plein de vos auditeurs savent déjà, mais aujourd'hui, en fait, comme les plateformes ne sont pas directement connectées au paiement en monnaie fiat, notre système bancaire traditionnel, elles sont obligées de passer par une banque traditionnelle pour qu'enfin ça puisse finir au niveau de l'échange de la transaction au niveau de la Fed et que tout ça soit réglé. Donc en fait, ce qu'ils demandent là, c'est d'éliminer cette banque intermédiaire, parce que forcément, c'est des coûts supplémentaires, pour que directement une plateforme crypto puisse directement faire des paiements, échanger entre la crypto et la monnaie fiat.
Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est le point en fait qui était réclamé par cette filiale de Payward, de la filiale de Kraken qui s'appelle Payward, pour avoir cette étape en moins. Et là, en fait, Trump pousse plus loin en disant, maintenant, à vous de regarder. Donc, il a aussi enjoint la Fed, la Réserve fédérale, de regarder ça de plus près. Et en plus de dire, non seulement vous allez regarder ça, mais je voudrais savoir si les 12 baby Fed, parce qu'aux États-Unis, on a une Réserve fédérale et 12 banques régionales. Nous, en Europe, effectivement, c'est toutes nos banques, toutes celles qui font partie de l'euro, on en a donc aujourd'hui, 21, vont aussi avoir, ça serait l'équivalent si vous voulez. Donc toutes celles-là, ils demandent à savoir si elles ont le droit en fait d'avoir leur propre décision sur cet accès. Évidemment, lui, il veut pas, il voudrait que la règle soit générale, mais en tout cas, c'est ce problème-là qu'il demande qu'on regarde de plus près. Donc en effet, on est vraiment très loin, il demande ça. Alors on ne sait pas trop si ça va bien se passer, parce qu'on a Sandra Loomis, qui est la sénatrice, qui est en faveur, mais on a Elizabeth Warren, qui est la traditionnelle démocrate, qui a toujours été contre, qui aussi s'insurge sur le fait que ça va trop vite et que ces acteurs-là, qui ont presque accès à des licences quasi-bancaires, viendraient trop facilement concurrencer les banques existantes. Mais enfin, on voit là que le problème, Bon, je n'ai pas un amour pour Trump, mais j'avoue que sur ce sujet, là où il pose bien le problème, c'est qu'il dit non, mais maintenant, voilà, il y a de la concurrence. Il faut qu'effectivement les conditions, enfin les accès soient donnés. C'est une nouvelle concurrence et il faut qu'elle soit là. Alors évidemment, il plaide pour sa paroisse, mais néanmoins, grâce à ça, il pose le problème correctement.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours aux États-Unis sur tous ces sujets-là une réflexion pour ouvrir. Oui. Finalement, pour avancer. Et c'est vrai que nous, les discussions en général, derrière, c'est pour fermer ou réglementer, effectivement. Macron dit éviter le mésusage des cryptos à des fins terroristes. Oui. Alors, on est d'accord, c'est un peu agaçant quand on voit à quel point, ne serait-ce que dans cette émission, on parle de réglementation, je dirais 60% du temps. Néanmoins, ça pose quand même une question. C'est quoi le moyen de lutter contre ça? Il y a quand même un problème sur, effectivement, l'utilisation et la médiatisation, d'ailleurs, des cryptos dans la criminalité, l'utilisation par des États qui essayent de contrer les sanctions internationales. Donc on a quand même un problème à ce niveau-là et en quelque sorte une publicité négative pour le secteur. Est-ce que la réglementation est le seul moyen de lutter contre ça ou il y aurait d'autres moyens, Grégory ?
Alors déjà, je pense qu'il faudrait un peu remettre en contexte le moment où en fait Emmanuel Macron a eu cette déclaration. Il s'exprimait donc dans une réunion organisée hier à Bercy dans le cadre de la présidence française du G7 et c'était une journée qui était vraiment dédiée au financement à la lutte contre le financement des activités illégales. Forcément, il a eu un mot pour les cryptos et c'est ce qui a beaucoup fait parler. Mais il y avait quand même, un débat général sur le sujet juste de l'argent. Et les chiffres quand même sont pas en faveur des cryptos récemment. Entre 2024 et 2025, on est passé de 50 milliards à peu près 160 milliards d'activités illicites liées aux crypto-actifs. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un sujet. Après, je rassure les aficionados, on reste quand même en dessous de 1% du volume de transactions.
Mais comme le volume
crypto
a augmenté.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ça, évidemment.
C'est ça. Et quand on regarde en fait la granularité des activités illégales en crypto, la grande majorité en fait ce sont les ransomware, donc les pirates, les arnaques en ligne, ça existera toujours. Et par contre, ce qui augmente le plus, ce sont les entités sous sanction qui utilisent des cryptos. Et notamment la Russie. La Russie qui a développé des stablecoins, notamment pour ces entreprises qui ont un peu du mal à commercer avec l'extérieur. Ouais. Donc en fait, ça, c'est compté comme des activités illicites. Ça augmente fortement. On le sait pourquoi. Il y a un contexte international et donc avec les sanctions avec la Russie. Je pense qu'avec ce qui se passe avec l'Iran, ça va encore augmenter. Parce que l'Iran, là, aujourd'hui, il y a pas mal d'infos qui tournent autour du fait qu'il pourrait utiliser le Bitcoin pour...
Et plus le stablecoin, hein, le Bitcoin.
Exactement. Donc ça va encore être comptabilisé dedans. Donc ça va encore augmenter. Mais il y a aussi des chiffres qu'il faut mettre en face. Selon les Nations Unies, il y a à peu près entre 3 et 5% des transactions totales dans le monde, en fait, qui sont liées à des activités illicites. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aucun moyen de paiement qui a 0% d'activités illicites. Forcément, il y en aura. Ça l'a toujours été. Après, il faut se demander le coût de l'opportunité. Les cryptos, en règle générale, on peut parler de Bitcoin ou des stablecoins, ça permet de craquer quand même plein de problèmes qu'il y avait jusqu'à présent. Le cross-border, le fait qu'il y ait des monnaies qui ne valent rien, ça, c'est une vraie opportunité pour beaucoup de gens dans le monde.
Oui.
Le coût, c'est que ça peut être utilisé à mauvais escient. On reste quand même à des niveaux quand même relativement convenables. Donc, il faut quand même regarder ça. Mais si je me mets à la place du président qui s'exprime en tant que leader du G7 cette année, moi, ça me semble pas anormal qu'il en parle.
Oui, d'accord. Mais après, c'est toujours la communication politique est toujours un petit peu à la miste, comme ça, que ce soit lui, que ce soit Christine Lagarde. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on pourrait aussi dire une première partie de phrase positive, une deuxième... Enfin, voilà, un peu équilibré. C'est ça aussi qui nous embête,
évidemment. Après, Emmanuel Macron, c'est pas forcément un anti-crypto. Encore récemment, il a appelé au développement des stablecoins euros. Oui. Bon, bien sûr, il va pas prendre fait et cause du Bitcoin. C'est pas son boulot.
Oui, bien
Donc,
sûr.
Moi, je le trouve plutôt équilibré.
Florent.
Je suis plutôt d'accord. Ça veut dire que prendre quelque chose sorti du contexte juste parce que c'est de notre écosystème, c'est sûr qu'il aurait pu se rendre à la Paris Blockchain Week comme prévu plutôt qu'au Salon du Livre. Il aurait découvert
un peu plus. Il devait.
Ouais, aller aux deux.
C'est surtout les deux.
Il devrait aller aux deux. Mais moi, je pense qu'il faut réguler les jeux vidéo. C'est-à-dire que si on part de ce principe-là, en fait, on régule aussi les jeux vidéo parce qu'il y a énormément de blanchiments qui sont faits.
Ah oui, exactement.
Dans des jeux vidéo comme World of Warcraft ou d'autres avec des tokens internes dans le jeu. Donc, en fait, c'est... La crypto, le Bitcoin est un outil. C'est ce que les gens en font. Aujourd'hui, je vous mets au défi, pour ceux qui connaissent l'écosystème, on nous demande beaucoup plus de papier. quand on est dans l'écosystème crypto avec des exchanges, avec des plateformes de crypto-monnaie, de crypto-actifs, que lorsque je fais une transaction avec ma banque.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est fliqué, clairement, on est fliqué parce qu'on est dans le projecteur. Est-ce que le blanchiment va augmenter autour du Bitcoin, des crypto-actifs ? Assurément. Oui, par le volume. En fait, comme c'est de plus en plus adopté, on pourra revenir dans 2 mois, dans 2 ans. Alors, ça a doublé. Bah oui, ça a doublé, mais l'adoption a doublé également. Donc, il faut toujours remettre les chiffres dans les bons ordres de grandeur. Est-ce que, d'ailleurs, entre des gens qui contournent des sanctions, des révolutionnaires, c'est qu'une question de perspective.
Mm.
C'est-à-dire que si on était russe, on dirait c'est génial.
Oui.
Si on était une femme iranienne, on dirait c'est génial. Bon, vu qu'on est de l'extérieur et que les sanctions occidentales sont contournées, ah oui, bon, c'est pas bien, ils contournent les sanctions.
C'est tout à fait politique, c'est ce qu'on veut dire aussi, ça dépend d'où on se place, évidemment. On parlait de réglementation et d'obligations multiples, parlons un petit peu Mika, Grégory Raymond, avec cette échéance du 1er juillet, pour ceux qui ne sont pas prêts, date fatidique. Ça va probablement changer littéralement le visage du secteur. Hein. C'est quand même assez vertigineux. Qu'est-ce qui va se passer ?
À partir du 1er juillet, en fait, tous ceux qui n'ont pas l'agrément MiCA délivré par l'AMF, eh bien, ils vont devoir poser le stylo. Le MiCA est en vigueur depuis à peu près 1 an et demi. Mmh. Ceux qui avaient déjà un enregistrement, donc c'est-à-dire un agrément, mais beaucoup plus simple à obtenir. En fait, ils avaient un délai de grâce de 18 mois supplémentaires, le temps de se mettre à niveau pour l'agrément très dur. Et ceux qui ne l'ont toujours pas obtenu,
c'est fini.
Alors bon, il pourrait y avoir quelques petits arrangements. En gros, quand on est une entreprise, qu'on est en cours d'agrément, qu'on l'a toujours pas au 1er juillet, on peut peut-être essayer de négocier en disant bon. Je n'enregistre pas de nouveaux clients, je peux mettre en pause certains services, mais on continue à fonctionner sur le reste. Ça sera peut-être fait au cas par cas, et encore une fois, l'AMF ne s'est jamais prononcé là-dessus. Ça peut être de la négociation. Par contre, si on l'a pas, et je pense que ceux qui l'ont pas savent que c'est quand même
c'est
probablement fini, à part pour quelques entreprises, mais pour la plupart, c'est fini. On parle quand même d'une 60aine d'entreprises en France qui n'ont pas encore l'agrément.
Il n'y a eu que 16 agréments hein, jusqu'à maintenant.
Alors, 16. Si on combine un peu tout avec les stablecoins, on est à peu près sur 24 agréments,
d'accord.
Mais sur à peu près 100 PSAN. Donc la plupart...
Ah oui, ça fait simple. Il y a une division de par 4.
Ouais, la plupart se retrouvent sur le carreau. Hein. Mm. Il faut le savoir. Après, ce sont de toutes petites structures qui se retrouvaient en face de géants comme Coinbase ou en France, CoinHouse, Bitstack. Donc forcément, c'est très concurrentiel, c'est très dur. Donc ces entreprises-là, elles vont devoir s'arrêter. Et on ne peut pas s'arrêter comme ça. Quand on a des clients, quand il y a des fonds sous gestion, du coup, il faut organiser un peu la transition, la sortie. Donc à qui, en fait, peut éventuellement se vendre. Donc vendre ses clients ou alors restituer les cryptos aux clients. On les restitue comment ? Est-ce qu'on les envoie sur des wallets non custodiaux ? Est-ce qu'on les envoie à d'autres prestataires qui eux ont leur agrément et qui pourraient permettre de retirer les cryptos ? Enfin voilà, tous ces gens doivent déjà préparer la transition et voilà, on en parle peu parce que forcément personne va vous dire sur un plateau, ben je suis désolé, je vais devoir arrêter mon activité parce que je suis pas compliante, enfin conforme avec MiCA. On n'en parle pas publiquement, non. Mais à l'heure où on se parle, en fait, la plupart de ces entreprises sont en train de préparer la transition.
Et alors, je peux me permettre, personne n'avait anticipé, voulu vendre avant, quand ils ont vu qu'ils étaient trop loin.
En fait, nous, chez Spiegel, depuis qu'on s'est lancé presque, on entend parler de plein d'entreprises qui savent qu'elles ne pourront pas passer au niveau supérieur et qui cherchent à se vendre. Par contre,
elles n'ont pas réussi, donc le taux de réussite, il est pas bon.
Ah oui, il est pas bon.
Okay.
Il est pas bon parce qu'en fait, au départ, une entreprise qui était déjà enregistrée MiCA, qui avait besoin de l'agrément, ça avait une valeur pour une entreprise étrangère, par exemple, qui voulait attaquer le marché.
Mais maintenant, c'est fini, quoi.
En fait, plus le temps passe, moins cette société a de valeur. Après, on peut se demander combien vaut un client. Et en fait, pas beaucoup. Un KYC, alors de mémoire, un client KYCisé, donc c'est-à-dire qui s'est enregistré, qui a donné ses documents d'identité, ça vaut à peu près 70 euros. Mmh. Et il n'y a aucune entreprise qui a 10 millions de clients en France. Donc, en fait, malheureusement, il y aura un avant, un après ce 1er juillet et on va se concentrer autour des gros. Mais c'était écrit dès le départ.
Oui, Florent.
Je pense qu'il y a un truc qu'on sous-estime, parce que on sous-estime un peu la piraterie et l'imagination des entrepreneurs. On pense que les entrepreneurs sont bloqués en France. C'est pas le cas. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà organisé, qui savent très bien qu'ils vont pas passer, parce qu'elles sont trop petites pour passer, parce que ce qu'on leur demande, c'est régulons, si on se met par rapport à de la concurrence américaine, n'importe, c'est reculons, reculons. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est David contre Goliath. Donc certains, et je prends le pari, allez, d'ici 3 mois, 6 mois,
sortent.
Combien vont ouvrir la même entreprise d'un autre pays ?
Alors c'est possible, mais par contre, quand on va s'enregistrer, enfin s'agréer dans un autre pays, il faut garantir que la plupart des équipes vivent dans ce pays ou dans cette ville.
On est bien d'accord.
On peut pas avoir une entreprise en France et aller s'enregistrer, je sais pas, en Autriche par exemple. C'est assez compliqué. Il faut tout déménager.
Et ou alors Europe.
Moi j'allais dire ça plutôt.
C'est pour ça.
Europe, oui, c'est possible. Mais quand quand on vise quand même une clientèle européenne.
Mais compliqué, qui n'est pas forcément d'ailleurs.
Oui, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a plus,
en termes
on a
de
plus
business,
le droit de faire de publicité.
Ah oui, on fait pas de publicité.
C'est la reverse solicitation. Dans toutes les entreprises suisses, on en connaît quelques-unes qui ne sont pas agréées en Europe. Elles n'ont pas le droit de faire de la publicité. Pas le droit. Et dans un marché ultra concurrentiel comme celui-ci, sans publicité, je
ça
pense qu'on est mort.
Ça va rester trop confidentiel.
C'est ça ou mourir. Je me mets à la place d'un entrepreneur. Nous, c'est pas notre cas. On n'est pas soumis à régulation. Demain, l'entreprise, c'est soit elle meurt, soit je déménage et je suis peut-être hors la loi dans un pays. Je vous fais le pari qu'il y en a beaucoup qui vont le prendre.
Mmh. Oui, effectivement, si on a le choix.
C'est ça ou la boîte meurt et les emplois meurent.
Exactement.
Quitte à même déménager ses employés dans une autre juridiction.
C'est le temps du questionnement pour ces entreprises-là et pour le moment, elles ne le disent pas. Mais
on verra le pourcentage d'ici.
On verra
mois,
ça.
6 mois, de combien ont été rachetés, et combien sont morts et combien ont déménagé discrètement depuis quelques mois.
Et on va beaucoup, beaucoup observer ce secteur dans les mois qui viennent. Florent, on va parler du minage et autre sujet, de l'installation de l'IA chez les mineurs. Quelles conséquences ?
Alors, quelles conséquences ? Ça, c'est vraiment la question que l'on me pose en ce moment. Est-ce que Blob, notre entreprise, est-ce qu'on va faire le switch IA ? Je vais parler plutôt des public companies. Donc, que ce soit Mara, Utuit ou
On va reparler de Mara, Florent, mais dans un instant. Mais allez-y.
On peut en parler longtemps, on peut faire un épisode complet dessus.
On en a fait déjà.
Il y en a eu quelques-uns. On en a marre. La question qui se pose, ou que j'entends de plus en plus, c'est est-ce que le réseau Bitcoin, est-ce que la sécurité de Bitcoin va être la même ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une quantité énorme de data centers, des fermes de minage qui sont en train d'éteindre les machines et de développer de l'intelligence artificielle. Bon, admettons que tous les mineurs américains mettent la clé sous la porte sur le mining et sur l'IA, c'est 40% du réseau. Donc déjà, juste pour remettre les chiffres, s'il reste 60% du réseau, il faut 5 EPR à pleine balle, des centaines de milliards de machines, personne ne pourra attaquer le réseau Bitcoin. Donc déjà, sur la sécurité, on est bon. Ce qui est vrai, c'est que paradoxalement, c'est le plus grand cadeau qui peut être fait à la décentralisation aujourd'hui du réseau Bitcoin. Ça veut dire que là où on avait une concentration de mineurs listés qui faisaient des gros sites de 200 mégawattheures, oui, tous ces sites-là ont eu la chance ou la claire vision de bloquer des mégawatts avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc du coup, aujourd'hui, c'est plutôt des vendeurs immobiliers mégawatts, même pas à l'acre. C'est des vendeurs immobiliers d'accès à l'énergie.
Nouvelle activité.
Je reviens d'une semaine de Texas à visiter des sites. Donc c'est un vrai cadeau pour la décentralisation parce qu'il va rester de plus en plus de petits sites où l'IA n'a aucun intérêt à aller de chercher des extra-capacités, chercher de la flexibilité énergétique, aller sur du flare gas, donc récupérer le gaz des torchères, donc les grandes torches qu'on voit dans les airs qui brûlent pour le pétrole. Donc en vrai, depuis le China ban, donc entre la Chine qui a banni le minage de Bitcoin, il n'y a pas eu de plus belle opportunité pour la décentralisation du réseau Bitcoin. Donc moi, je trouve ça plutôt bien. Et oui, on arrive, pour moi en tout cas, à un plateau de la difficulté de minage. En gros, c'est un gros gâteau qu'on se partage tous. Plus on est de mineurs, moins on mange. Et en plus, ce gâteau, il divise par deux tous les 4 ans. Aujourd'hui, ce gâteau-là, la difficulté de minage pour avoir ce gâteau-là, arrive à un plafond ou à une plaine. Parce que avant, la difficulté de minage augmentait de quasiment 30%, 40% par an. Est-ce qu'elle va faire la même chose ? C'est mon avis. Pour moi, c'est non. Ça voudrait dire qu'il y a 40% d'électricité en plus que l'année N-1 dédiée au minage de Bitcoin, qu'il y a 40% de semi-conducteurs en plus que l'année N-1 dédiée au minage de Bitcoin. Et ça voudrait dire aussi que la prouesse technologique des semi-conducteurs continue de s'améliorer, ce qui n'est plus le cas. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à un palier, on n'arrive pas à graver des semi-conducteurs plus petits que 2 nanomètres. On va réussir à aller à 1, mais on n'a plus ce gain d'efficience des machines qui faisaient des bonds de 40% tous les 2 ans. Donc, non.
Du coup, tu es en train de dire que la loi de Moore, c'est terminé ?
Elle est déjà terminée depuis 3 ans. 3 ou 4 ans quasiment, la loi de Moore, effectivement.
En tout cas, il faut une nouvelle innovation pour que ça reprenne.
Le silicium ne peut pas...
En l'état actuel des connaissances, on ne peut pas plus.
On ne peut pas graver du silicium en dessous du nanomètre. En tout cas, c'est très compliqué parce qu'il y a des problèmes quantiques au niveau de l'atome et du champ magnétique. Enfin, on va rentrer trop dans la technique. Mais grosso modo, la difficulté de minage ne montera plus comme on l'a connu avant. Et aussi, il y a aussi un autre facteur qui est un facteur de marché. La difficulté de minage augmente énormément quand le Bitcoin augmente. Énormément. Est-ce que le Bitcoin va faire les mêmes multiples que par le passé ? Passer de 3 000 à 69 000, passer de 15 000 à 125 000, personne ne le sait, mais à un moment, il y a quand même une limite de market cap.
Il y a peu de chance. Voilà. Oui, effectivement, effectivement.
Donc, n'ayez crainte.
Voilà, vous n'êtes pas inquiet. Le temps presse, et oui, évidemment, on voulait revenir un petit peu sur cette info rigolote qui nous a fait rire hier avec Sandre Stachenko, Donald Trump qui est devenu actionnaire de Mara Holdings. C'est rigolo quand même, après tout ce qu'on s'est dit sur ce sujet.
Moi, je trouve ça malin. Je trouve ça plutôt malin.
Oui.
Bah, faut savoir que c'était en début d'année, ils ont dans un des blocs qu'ils ont miné, Mara, ils ont gravé à la gloire de Donald Trump une illustration dans la blockchain.
Ouais, ouais, portrait, ouais.
Donc voilà, ils sont quand même assez proches du président.
Ouais, d'accord. C'est donc il y a une tendance.
Disons que les courbettes à la Maison Blanche, ils sont un peu coutumiers. Hein.
Ouais. Oui, c'est pas trop étonnant. Mara fait un gros virage. Et pourquoi aussi les entreprises de minage font un gros virage vers l'IA ? Il faut savoir qu'un mégawatt déjà installé produit énormément plus de rentabilité sur de l'intelligence artificielle que sur le minage de Bitcoin. Et il est également immensément plus simple de lever de l'argent frais aujourd'hui sur de l'IA que sur du minage de Bitcoin.
C'est vrai.
Donc aujourd'hui, Wall Street est en train de payer 5, 6, 7 fois le prix de l'actif sous-jacent quand même.
Oui, effectivement.
De là à parler de bulle, je ne sais pas.
Oui, non, mais c'est vrai. On se pose la question tous les matins en ce moment sur BFM Business.
Je suis pas sûr que c'est. Mon avis, c'est. Je ne pense pas que c'est une bulle. Une bulle, c'est quand. Je ne suis pas économiste. C'est quand il n'y a pas la demande en face. Aujourd'hui, c'est une offre qui essaye de répondre à la demande et qui ne répond pas à la demande.
On est en pénurie. Oui.
Voilà. Donc, une bulle, c'est quand il n'y a pas de demande en face.
Et puis là aussi, les gouvernements sont tellement. Enfin, il y a tellement une guerre technologique. En fait, aussi, toute cette bulle, elle est alimentée par les fonds publics. Et c'est complètement décorrélé de l'économie réelle. Et en fait, tant que les États se font la guerre sur l'intelligence artificielle, pour moi, ça peut encore continuer à monter très, très haut.
Alors, pour le moment, les États ne se font pas tous la guerre sur l'intelligence artificielle parce qu'il reste toujours un village d'irréductibles gaulois qui souhaitent réguler avant de combattre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Je ne sais pas, mais on voit bien le CEO.
On ne sait pas du tout.
Voilà, exactement.
Après avoir dit que finalement, un tax Zuckerman, c'est peut-être pas si grave, finalement, il se dit que la régulation, quand même, ça gêne.
Ouais, c'est clair. Un petit dernier sujet, il nous reste 2 minutes, Nathalie Janson, vous voulez revenir sur le Clarity Act qui a passé une étape il y a quelques jours avec le comité bancaire du Sénat. Mm-hmm. Ça posait problème, le blocage, c'était notamment sur les rendements des stablecoins. Vous vous dites que ce débat-là, finalement, ce n'était pas forcément le meilleur angle d'attaque.
Oui, en fait, d'ailleurs, évidemment, je ne suis pas la seule, mais effectivement, il y a eu beaucoup a été écrit sur cette volonté des banques de ne pas que les stablecoins ne soient pas autorisés à rémunérer les détenteurs de stablecoins parce que ça leur ferait de l'ombre. Et en réalité, en comparant souvent en plus stablecoin à ce qu'on appelle aux fonds monétaires qui sont disponibles là-bas, c'est-à-dire que c'est des fonds monétaires, les Américains en fait ont l'habitude de pas seulement d'avoir un compte bancaire comme nous, mais d'avoir un compte bancaire rémunéré aussi sous forme de fonds monétaires. Donc en fait ils peuvent en fait avoir des rendements plus élevés, surtout depuis que les taux d'intérêt évidemment sont plus élevés. Donc en fait beaucoup associaient ça, et les banques aussi disaient, vous voyez, parce que ça, les fonds monétaires, ça nous a beaucoup concurrencé quand il y a eu ça dans les années 80. Donc les banques américaines, il faut dire qu'elles ont été marquées par cette concurrence
un peu traumatisées
parce qu'effectivement elles s'étaient retrouvées avec des clients qui s'en allaient. Mais là à nouveau, en fait, ce qui n'est pas mesuré, c'est que là les stable ils sont beaucoup plus agressifs, ils n'ont pas forcément besoin de ça pour en fait quand même aller faire damer le pion des banques. Pourquoi ? Parce que contrairement, les stablecoins peuvent aller directement faire des paiements. Ce qui n'était pas le cas non plus des fonds monétaires. Les fonds monétaires, il faut les convertir. Il faut donc, pareil, avoir accès à une banque pour pouvoir après procéder à des paiements. Et en fait, en effet, l'angle... Alors, Bien évidemment, le rendement, c'est une question, mais ça ne va pas
les
ça
empêcher.
Ne va pas être effectivement la solution ou en tout cas ralentir la concurrence des stablecoins, parce que les stablecoins vont concurrencer, parce que tout simplement, ils permettent le paiement rapide, à faible coût, et même s'ils n'ont pas de rendement, eh bien, ils ont cette possibilité beaucoup plus que qui n'est pas comparable à ce que font les banques aujourd'hui. Donc, on n'a pas fini, c'est-à-dire qu'elles ont attaqué sous un angle parce qu'il fallait qu'elles se défendent. Mais en fait, ce n'est qu'une partie du problème, et une petite partie du problème.
Oui, mais... C'est intéressant quand on sait que les fonds monétaires tokenisés, oui, en fait, pourraient permettre de payer aussi. Bon, après, il y a la réglementation, je ne suis pas sûr que ce soit encore possible. Mais...
Moi non plus, je ne sais pas. Pour le moment, non.
Techniquement, c'est possible.
Mais techniquement, c'est possible. Donc en fait, on n'a pas fini. Je pense que la course, l'innovation va nous faire des belles semaines de nouvelles propositions, d'offrir des opportunités incroyables.
On commentera ça, oui, très très vite.
Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, grâce au stablecoin, un Italien, un Français ou un Espagnol peut financer de la dette américaine. Et que si l'Europe ne se réveille pas sur les stablecoins euros, qu'il y a du yield, donc du rendement sur les stablecoins dollars, et que ça ne sera pas le cas sûrement sur l'euro, on peut déjà enterrer dorénavant le stablecoin euro.
D'où l'importance de la consultation qui a été ouverte aujourd'hui par la Commission européenne.
Bravo.
Qui permettra d'avancer sur ce sujet.
Quelle magnifique conclusion. Merci, messieurs, dames. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School, présidente de Génération Libre. Florent Gabriel, fondateur et CEO de Blob.io. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Merci d'être venu dans cette émission. À retrouver en podcast et en replay, évidemment, sur notre site et notre appli. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse.
BFM Business, BFM Crypto, le club.